Merci Tiffaine et bon week-end. Deux invités, des histoires de voix, voix off, voix embaumée, voix jumelle, histoire de magnétisme, de magnétophone, d'hypnose et de sorcellerie, avec les fantômes de Sandra Moussampès et le cinéma d'Antonin Artaud par Lorraine Duménil.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Et ça commence par un cri dans les escaliers, par la voix d'Antonin Artaud et de voix, il sera question aujourd'hui, de voix et de cinéma, cinéma de l'affect, boucle de voix off pour film fantôme. Ça c'est pour vous Sandra Moussampès qui signez aux éditions de l'Attente un montage de poèmes travaillé par l'enregistrement entre collecte de voix embaumées et littérature du son. Et comme ça tombe bien pour aujourd'hui, s'y glisse celle de votre père, Jacques Moussampès, qui écrivit sur Artaud, fut le compagnon de son premier amour et possédait même son masque mortuaire. Qu'est-ce qu'Artaud était pour lui, en tout cas pour votre père, avant d'en venir à vous?
Alors, moi effectivement, j'ai baigné enfant dans cette atmosphère donc d'Artaud, avec les ululements qu'on vient d'entendre par exemple, ça a été les comptines de mon enfance. Donc j'en étais même plus vraiment étonnée. Je n'adorais pas puisque c'est quand même un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on est enfant, petite fille. Je pense que voilà, Artaud était pour mon père une figure vraiment importante. Effectivement, moi j'ai pas eu vraiment l'occasion de parler avec lui parce que malheureusement il est décédé, j'étais assez jeune, donc de ce lien qu'il avait avec Artaud, mais c'était toujours là. Voilà, je pense que c'est quelque chose pour lui de peut-être une figure à laquelle il pouvait s'identifier d'une certaine manière, puisqu'il avait cette fascination pour Artaud, donc au point, il a été sur son lit de mort, il l'a vu sur son lit de mort, il a eu effectivement le masque mortuaire, il possédait aussi le dessin L'exécration père-mère qui ensuite a été revendu au centre Pompidou. Donc voilà, après pouvoir dire exactement qu'est-ce qu'était ce lien, c'est un petit peu compliqué pour moi en tant que fille.
Vous ne l'avez toujours pas lu, Antonin Artaud, bien qu'ayant grandi dans sa voix d'une certaine façon. Vous, pour qui un timbre en dit plus qu'une gestuelle, hein, qu'est-ce que cette voix vous évoque? Alors je dis cette voix, il faudrait dire ces voix, pluriel. Je ne sais pas laquelle de ces voix a laissé son empreinte sur vous.
Pour moi, c'était effectivement d'abord un espèce de refus, parce que instinctivement, en tant qu'enfant, on n'a pas forcément cette attirance pour ce type de voix. Et en même temps, à présent, oui, cette voix est exactement comme ce visage émacié qu'il avait à la fin de sa vie. La représentation de quelque chose que beaucoup de gens veulent fuir, notamment à notre époque, où beaucoup de gens parlent d'Artaud. Mais finalement, est-ce qu'Artaud, à notre époque, aurait l'aura qu'il avait? Je ne sais pas, parce qu'on est quand même dans une époque assez consensuelle. Et donc, voilà, c'était une époque où les choses étaient effectivement peut-être beaucoup plus permise dans le sens où on pouvait exprimer une souffrance et ça pouvait faire œuvre également. Alors évidemment, il n'y a pas que la souffrance, il n'y a pas que la pathologie, bien au contraire. Et donc le livre de Lorraine en témoigne, hein, donc c'est intéressant aussi de voir l'envers du décor.
Alors avec moins d'affect, hein, sans doute Lorraine Duménil, Artaud dans, sur, pour, finalement contre le cinéma, hein, c'est votre grande affaire, hein, vous qui avez signé déjà une exposition sur le sujet à la Villa Médicis il y a quelques années, et puis aujourd'hui un tout frais Artaud et le cinéma qui paraît aux nouvelles éditions Place. Si on s'en tient aux faits, aux textes, à la chronologie, le cinéma l'occupe entre, disons, le début des années 20 et puis 1935, hein, date à laquelle Artaud va rompre apparemment définitivement avec le cinéma. Entre les deux, il y aura eu Artaud scénariste, Artaud théoricien, et Arto acteur.
Qu'on fait ici ? On attend ! On attend quoi ? La mort vient sur nous ! Je vous propose, les enfants, d'aller sur elle ! Regardez-la en face ! Alors, pas les enfants ! Hurleur de Melbourne !
Alors, ce qu'on entend, c'est un extrait pour le moins halluciné hein, d'un rush d'essai pour La fin du monde d'Abel Gance en 1930, qui est un film qu'Arto ne tournera pas finalement. Qu'est-ce que cette scène-là mobilise et raconte finalement de ce qu'est Arto à l'écran hein ? Vous écrivez dans votre essai, en écho au titre de l'un de ses fameux articles, « Jamais la sorcellerie du cinéma n'aura mieux trouvé à s'incarner que dans ces quelques secondes d'essai ».
Oui, alors c'est vrai que cette séquence hein, qui dure quelques secondes, qui en effet ne donnera pas lieu à une participation d'Arto au film de Gance, hein, elle montre un Arto donc, qui est cadré hein, vraiment en plan serré avec une lumière stromboscopique derrière lui. C'est-à-dire que ici vraiment sont mobilisés tous les ressorts du cinéma d'avant-garde et on y voit une inscription hein, vraiment très fugitive, encore une fois quelques secondes, de ce que Arto appelle de ses vœux au cinéma. Hein, et c'est une des choses que j'ai cherché à montrer dans mon essai, à savoir cette idée que le cinéma produit un choc violent, hallucinatoire sur le spectateur et que là réside sa force la plus profonde. Et c'est en ce sens que l'image de cinéma sera pour lui une sorte de matrice de toute sa pratique artistique qu'il poursuivra sur différentes scènes, donc sur la scène des dessins, mais également bien sûr dans ses poèmes, voire jusque dans l'émission radiophonique hein, qu'il enregistre en novembre 1947 pour en finir avec le jugement de Dieu. Et c'est vrai que l'une de ses apparitions, cette apparition dont vous parlez, c'est l'une de ses apparitions les plus marquantes, là où une certaine folie s'incarne à l'écran, mais que l'on retrouve dans d'autres de ses rôles, par exemple bien sûr dans son apparition en moine Massieu, dans La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, hein, mais également dans des films un petit peu moins connus. Hein, et on peut, par exemple, penser à ce film dans lequel il joue une sorte de fou hein, qui s'appelle Folesta, le film Faubourg Montmartre de Raymond Bernard en 1931, où là aussi, hein, on a presque l'impression qu'en fait, dans certaines de ses meilleures apparitions, puisqu'on le sait, Arto, à part quelques rôles qui auront marqué l'histoire du cinéma, ne fait que des apparitions fugitives. Hein, il tourne 22 films de 1924 à 1935 et certains de ses films étaient... ces apparitions, en tout cas, étaient tombées dans l'oubli. On doit à Dominique Paigny d'avoir, pour l'exposition qu'il a organisée en 2005-2006, hein, qu'il a co-curatée avec Jean-Jacques Lebel et Jean-Hubert Martin à Milan et à Düsseldorf, donc une exposition Arto, il a, à l'occasion de cette exposition, rassemblé pour la première fois les 22 apparitions cinématographiques d'Antonin Arto. Donc c'est vraiment un travail immense et très précieux. C'est lui qui d'ailleurs retrouve ce rush hein, qu'on entend. Et donc certaines des apparitions les plus frappantes montrent un Arto qui laisse présager ce que sera par exemple l'Arto performer du Théâtre et la Peste, hein, la conférence en Sorbonne en 1933, conférence à propos de laquelle Anaïs Nin rapportera dans son journal que Arto a incarné la peste dans son propre corps. On peut également penser bien sûr à la conférence au Théâtre du Vieux Colombier, à la fin de sa vie. Et donc, il y a comme ça une sorte de continuum entre sa pratique actoriale à son meilleur et ce qu'il poursuivra, donc encore une fois, sur d'autres scènes un peu plus tard.
Alors, on va préciser tout ça, évidemment, Lorraine Duménil. Peut-être il faut rappeler aussi, à propos du film Faubourg Montmartre, hein, que vous évoquiez à l'instant de Raymond Bernard, que certes, il y joue un fou, comme vous dites, mais c'est surtout un meneur de révolte, ce qui, évidemment, prend tout son sens. Alors, Arto, ce sont 22... apparitions à l'écran, hein, vous l'avez dit, entre 24 et 35, de Autant Lara à Tourneur, si je ne dis pas de bêtises. Faire l'acteur, être acteur, un métier, dit Arto, un métier affreux, dit-il encore, un métier honteux, abominable parfois, un métier d'esclave. Hein, on retrouve en tout cas tous ces termes-là, notamment dans ses lettres, qui comme souvent sont très parlantes. Qu'est-ce qu'il reproche véritablement au métier d'acteur, hein, Lorraine Duménil ?
Alors, ce qu'il reproche au métier d'acteur, donc comme vous l'avez rappelé, un métier affreux,
c'est que pour la plupart des rôles qu'il endosse, il s'agit en fait de rôles commerciaux. Et donc, il a l'impression de ne pas pouvoir exprimer quoi que ce soit d'artistique dans ses rôles. Et les lettres qu'il écrit, notamment à Gans, mais également les lettres qu'il rédige à propos, en fait, de la chute de la maison Usher, hein, qui est donc réalisé par Epstein, film pour lequel il voudrait obtenir le rôle de Usher, qu'il n'obtient pas, parce que Epstein, d'ailleurs, dans une lettre qu'il écrit à Artaud, hein, lui dit qu'il a peur, en fait, hein, de son jeu suraigu, de la suracuité de son jeu. Et donc, ce qu'il reproche au métier d'acteur, c'est de ne pas lui donner la possibilité, en fait, en raison des contraintes du métier, d'exprimer ce qu'il aurait envie d'exprimer, et donc d'être exploité aussi à sa juste valeur. Il y a vraiment ça dans les lettres, hein. Cette idée que, pour certains rôles, il pense être celui qu'il faut, et il le dit très clairement à Epstein, hein, moi seul ai vécu ce que vit Usher dans la pestilence de mon âme, etc., etc. Et il y a aussi des lettres où il dit des choses qui sont très justes, même par rapport à ce qu'on peut constater encore aujourd'hui dans le milieu du cinéma. Il dit, voilà, ce n'est pas vendable, je ne suis pas un acteur vendable, on ne peut pas faire un film sur mon nom. Voilà.
Pour autant, Dominique Paigny, dont vous parliez à l'instant, Lorraine Duménil, parle lui d'Artaud comme étant au fond un acteur très représentatif des années 20 et 30. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire, enfin, je pense, je ne peux pas parler pour lui, mais dans ce que Dominique Paigny entendait, ça veut dire qu'en fait, il a incarné un panel de rôles extrêmement représentatif, hein, de ce que le cinéma pouvait offrir à l'époque, hein, du jeune premier au soldat, à la figure historique, voilà. Mais ce qu'on peut quand même rappeler, c'est qu'il a toujours incarné ses rôles avec quelque chose qui lui était propre. Et beaucoup de témoins de l'époque ont relevé le jeu très expressionniste, hein, d'Artaud. On sait qu'Artaud, hein, il y a un entretien qu'Artaud donne en 1932 dans lequel il fait montre de son admiration pour un certain nombre d'acteurs allemands. Hein, donc il était particulièrement intéressé par le jeu expressionniste et par le cinéma expressionniste. Et c'est vrai que c'est ce que l'on retrouve dans ses apparitions à l'écran. Et d'ailleurs, parfois, lui-même, notamment pour le film Surcouf, ne peut pas supporter de se voir à l'écran parce qu'il trouve ça trop outré et mal joué.
Il se comportait, ça c'est Marcel Lherbier, hein, avec qui il va tourner deux films qu'il écrit, il se comportait comme un acteur qui commet des fautes de syntaxe dramatique. Je m'explique, il avait tendance à faire continuellement émerger le double qu'il sentait au fond de lui. En présence de ce phénomène, de cet affleurement constant de son double, j'ai alors pensé qu'au lieu de condamner cette interprétation et ce qu'elle pouvait avoir d'apparemment excessif, mieux valait utiliser une telle dualité. On pourrait dire par jeu que je disposais ainsi de deux acteurs pour le prix d'un seul. Alors ça, c'est ce qui va plaire à Lherbier, c'est ce qui va inquiéter Epstein, hein, comme vous le dites. Lherbier, Gans, Autant Lara, Dreyer, Lang, Pabst, Tourneur, donc tout ça sont des gens qui vont faire tourner Artaud. Au fond, pourquoi est-ce qu'on le fait tourner, finalement? Qu'est-ce qu'ils vont chercher chez lui? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Lui qui est si juste, comme vous dites, et si inutilisable.
Alors, je pense qu'il y a aussi un facteur peut-être contextuel qui est que Artaud, alors pour certains de ses films, pas les plus connus, est appuyé par son cousin, hein, Louis Nalpas, qui a un rôle important dans l'industrie cinématographique de l'époque. Je pense que ce que j'ai cherché à montrer aussi, c'était à quel point Artaud avait une approche et une pratique technicienne en fait du cinéma au début. C'est vraiment en 1924 pour lui déjà un moyen de gagner sa vie. Et il faut un petit peu réhabiliter cela, c'est-à-dire qu'il rentre sur la scène artistique au moins autant en tant qu'écrivain de scénarii qu'acteur, que poète ou acteur de théâtre. Il y a vraiment, le cinéma est très précoce en fait, mobilise son intérêt de manière très précoce. Et pour lui, le cinéma est un moyen de gagner de l'argent, il le dit dans beaucoup de lettres, de manière rapide, donc aussi bien en écrivant des scénarii qu'en jouant. Et donc, son cousin, Louis Nalpas, le pousse pour certaines productions, à travers sa société de production des ciné-romans. Et puis pour donc un certain nombre de réalisateurs que vous avez cités, ils sont particulièrement sensibles donc à cette possibilité de jeu d'Artaud, hein, difficilement maîtrisable, donc Marcel Lherbier a très très bien exprimé. Et je pense que ce qu'il y a chez Artaud et qui se révèle déjà dans ses apparitions cinématographiques, c'est quelque chose qui est de l'ordre finalement de ce qu'on retrouvera avec La Peste au théâtre, en fait, cette capacité à faire émerger un double. hein, quelque chose comme ça de flottant qui va venir frapper le spectateur. Et on en reparlera sûrement, mais il y a cette question de la virtualité hein, de l'acteur au cinéma qui est capable d'attirer le spectateur dans une autre dimension et d'agir sur son esprit directement. Et qu'il cherchera ensuite à recréer au théâtre hein, après avoir constaté ce qu'il appelle la vieillesse précoce du cinéma.
Dans un article de 33, on va y revenir bien sûr, on l'écoute encore.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les saints types de la misère humaine susceptibles d'éveiller la compassion des hommes et de les mettre dans cet état d'âme anormal, donner son argent sans y être obligé.
Équipement C.
Pourquoi ne puis-je avoir l'équipement A, monsieur Pitchoum?
L'équipement A? Non. C'est le jeune homme de bonne famille qui a connu des jours meilleurs.
Ça m'ira parfaitement. C'est tout à fait mon histoire.
Mais justement, personne n'y croira. Si tu as vraiment la colique, tu t'en plaignes. Tu ne feras que dégoûter les gens. D'ailleurs, tu n'as pas à discuter. Avec toi.
Excusez-moi, monsieur Pitchoum.
C'est tout à fait mon histoire. Donc, c'était la voix d'Artaud qu'on entendait dans ce tout petit extrait de Artaud en mendiant dans l'opéra de Katsu hein, de Pabst en 31. La parole, dira Artaud, y est réduite à des qualités de voix. Qu'est-ce que ça veut dire venant de quelqu'un qui va, ma foi, conspuer l'arrivée du parlant?
Alors, du Ménil, hein. C'est vrai que cette arrivée du parlant, elle fait partie des raisons pour lesquelles Artaud, assez précocement, va donner congé au cinéma. Hein, puisque, en gros, il va s'intéresser au cinéma de façon théorique, hein, dans différents textes, lettres de 1925 à 1933. Et donc, il va ensuite donner congé de manière définitive au cinéma et il n'en reparlera plus. Et l'arrivée du parlant est l'une de ces raisons. Et en cela, Artaud participe hein, d'un phénomène d'époque, c'est-à-dire que à la fois, il y a eu un très très grand engouement de la part des poètes et des écrivains dans les années 20 pour le cinéma, qui était vu comme un nouveau médium capable de ranimer comme ça toutes les formes de représentation exsangue, notamment parce qu'il ne reposait pas sur la parole. Aussi bien l'arrivée du parlant, donc au début des années 30, va mettre un petit peu un coup d'arrêt, va freiner cet enthousiasme. Et ça, il le dira clairement. Et chez Artaud, c'est parce qu'il y a une déconnexion entre l'image et la voix, en fait. C'est ça qui relève dans le parlant. Il dit l'image, elle vient de l'écran, elle est située dans un autre espace, c'est virtuel, alors que le son, il est situé dans la salle. Et cette déconnexion, cette dissonance, pour lui, bon, condamne le cinéma. C'est pas l'unique raison.
Mais ça, on va y revenir bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire quand il dit, à propos de ce film, que la parole y est réduite à des qualités de voix, qui est une façon pour lui de dire que dans ce cas-là, c'est possible.
Tout à fait. Exactement. Donc j'allais y venir, c'est-à-dire que même s'il condamne le parlant, il va quand même réfléchir à un moment à la possibilité de sonoriser des films avec notamment hein, ce qu'il peut appeler des qualités de voix, c'est-à-dire des sons, quelque chose qui ne passe pas par le langage, qui ne passe pas par l'articulation langagière. Hein. Et c'est ce qu'on retrouvera ensuite dans sa pratique poétique et dans son émission radiophonique, bien sûr.
Sandra Moussampès, je vous ai vu. Alors peut-être que ça ne me regarde pas, mais je vous ai vu gratouiller sur une page pendant que Lorraine Duménil parlait.
Oui, en fait, moi c'est justement ça qui m'intéressait en lisant ce livre, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de mal à lire Artaud pour des raisons biographiques qui m'appartiennent et familiales, donc lié justement voilà, à quelque chose de pas forcément simple. Et là, tout d'un coup, ça dédramatisait. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu toujours le côté justement artiste maudit, folie, enfin tout ça qui était exacerbé. Voilà, tout ce qu'on en dit. Mon père faisait même des cérémonies sur la tombe d'Artaud. Il était prof au lycée Romain Rolland à Ivry. Donc, il amenait ses élèves dans les années 70. Il faisait des cérémonies sur la tombe d'Artaud.
Des cérémonies de quoi?
Ah ben, ils allaient sur sa tombe et je pense qu'ils faisaient des cérémonies. Alors, je sais pas, peut-être avec des bougies. Enfin, je ne sais pas exactement. C'est un ancien élève de mon père qui m'avait raconté ça. Et en fait, là, voilà, en lisant ce livre, j'ai pu mettre à distance tout ce côté qu'on connaît hein, chez Artaud, enfin voilà, et approprier quelque chose d'autre qui est quelque chose un peu de l'ordre de l'acteur, du scénariste, du cinéaste finalement qui comme les autres voilà veut se faire une place, veut pouvoir effectivement obtenir un rôle qu'il pense qui convient, à comme ça une espèce de démarche volontariste aussi, mais tout ça pour dire que ça a mis à distance quelque chose de l'affect justement, et c'est bien parce que peut-être que maintenant je vais avoir envie de rentrer dans Artaud d'une manière plus objective, peut-être moins subjective.
Alors, Antonin Artaud qui écrit ceci à propos du cinéma, il y a aussi cette sorte de griserie physique que communique directement au cerveau la rotation des images. L'esprit s'émeut hors de toute représentation. Cette sorte de puissance virtuelle des images va chercher dans le fond de l'esprit des possibilités à ce jour inutilisées. Le cinéma est essentiellement révélateur de toute une vie occulte avec laquelle il nous met en relation. Le cinéma arrive à un tournant de la pensée humaine, à ce moment précis où le langage usé perd son pouvoir de symbole, où l'esprit est las du jeu des représentations, la pensée claire ne nous suffit plus. Au cinéma, pour commencer, Artaud déteste évidemment la narration, le dramatique. Pour lui et bien d'autres poètes, quelles sont véritablement les promesses du cinéma pour le jeune poète, le jeune acteur qu'il est? Est-ce que c'est quelque chose qui viendrait résoudre la crise du langage, la crise de la représentation? Je rappelle qu'on est juste après la Première Guerre mondiale, quand même. Qu'est-ce que lui promet le cinéma?
Alors oui, très clairement, chez Artaud, c'est ça. C'est cette possibilité de sortir du cadre sclérosé de la représentation, et notamment de la représentation langagière, voire même de la signification. Il le dit dans ses textes, c'est la possibilité d'un langage non signifiant. Et ça, ça tient aux caractéristiques propres au médium. Et là, il a une approche vraiment... il fait une sorte d'ontologie du médium, presque. Ça tient à la pellicule cinématographique qui, pour lui, présente une affinité, une sorte d'homologie, de congruence avec le fonctionnement de la pensée. Et par rapport au texte que vous avez lu, c'est vraiment ça qui s'y dit. C'est cette capacité qu'a le film, la projection cinématographique, de nous toucher directement sans médiation langagière, de s'imprimer directement sur notre cerveau et du coup de nous donner à voir le fonctionnement de notre pensée.
Ce qui ne va pas sans une certaine violence, j'imagine.
Évidemment, mais c'est pour ça que ça l'intéresse.
Un extrait d'une des bandes-sons, en tout cas d'une bande-son possible pour La Coquille et le Clergyman, créé en 2009 par le duo Inquiétant Suspendu, en l'occurrence Pascal Berthomi et Xavier Vauchel. La Coquille et le Clergyman, réalisé en 27 par Germaine Dulac, sur un scénario d'Antonin Artaud. Sur le papier, c'est-à-dire à lire le scénario, Lorraine Duménil, quelles seraient au fond les potentialités du cinéma qu'un tel scénario mettrait en jeu?
Alors, on sait qu'Artaud s'élèvera contre le film de Germaine Dulac, et parce que pour lui, ce film ne doit pas être un récit de rêve, et c'est ce que Germaine Dulac en aurait fait. Pour lui, le cinéma, et c'est pour ça qu'il a écrit un texte qu'il a joint à la publication du scénario dans la NRF, Cinéma et Réalité, le cinéma, dans La Coquille et le Clergyman, tel que ça apparaît dans ce scénario, doit reproduire le fonctionnement de l'esprit, et non pas donner à voir, être une sorte de transposition en image d'un rêve. Donc c'est vraiment ça qui s'y joue. On parlait tout à l'heure de cette violence. Il y a une très forte corrélation chez Artaud et chez d'autres poètes ou écrivains qui se sont intéressés au cinéma à l'époque, entre le fonctionnement du cinéma, l'hypnose, l'inconscient, voilà, donc ça c'est des choses qui ont été beaucoup travaillées, mais donc il faut reproduire le travail de l'esprit, le donner à voir, donc c'est ça, pas mettre un rêve en image, et d'après lui c'est ce que Germaine Dulac aura fait en fait dans La Coquille et les Clergyman.
Vous êtes plus indulgente avec Germaine Dulac que l'a été Antonin Artaud, oui. Ou ses amis surréalistes, parce que je rappelle évidemment que lors de la projection au studio des Ursulines, en 27, ça a évidemment donné lieu à je sais pas comment appeler ça.
Une sorte de cabale contre elle, très clairement orchestrée, avec notamment la figure d'André Breton en leader. Ils sont partis de manière extrêmement bruyante avant la fin, en criant goulou goulou. Donc il y a quelque chose d'assez violent qui s'est joué là. Alors, je suis pas la seule à être plus indulgente, c'est-à-dire que ce qu'on peut relever, c'est que en réalité, la déception d'Artaud, elle est surtout liée au fait que, enfin, c'est la même déception qu'il aura finalement lorsqu'il entendra la transmission de l'émission radiophonique pour en finir avec le jugement de Dieu. C'est qu'à partir du moment où les choses sont fixées sur un support, une pellicule, une bande-son, à partir du moment où les choses sont fixées, elles n'existent plus dans l'espace vivant, et donc pour lui, c'est mort. Donc c'est pas tellement en fait la qualité de la réalisation, même si on pourrait la on pourrait en parler, mais ce film a quand même été considéré comme un des meilleurs films d'avant-garde des années 20. Enfin, c'est pas un mauvais film hein, du tout. C'est plus le rapport qu'Artaud avait avec l'objet fini en fait.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes par Manu Farine.
Lorraine Duménil, votre essai à vous fait une hypothèse, enfin pas qu'une, hein, mais en tout cas vous développez effectivement l'idée selon laquelle le cinéma ou l'image fonctionnerait comme une matrice qui viendrait se prolonger par la suite, hein, même après avoir rompu avec le cinéma. Hein, vous parlez de cette persistance au fond de l'image ou de l'effet cinématographique, y compris au théâtre et par la suite dans les poèmes ou dans les dessins. Vous vous attardez sur ces revirements qui peuvent paraître un peu étranges, enfin disons qu'il y a des revirements un petit peu complexes, c'est-à-dire quand il va en finir avec le cinéma, du moins quand il va formuler son désintérêt, sa rupture avec le cinéma, ça sera pour retourner vers un théâtre, mais un théâtre nouveau. Et ce théâtre nouveau, qui est celui qu'on connaît d'Artaud, pour vous est largement irrigué par la promesse du cinéma.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une hypothèse que je formule, hein, cette idée d'un frayage cinématographique dans toute la suite de l'œuvre, et donc pas que le théâtre au sens strict, hein, puisqu'on sait qu'Artaud a donné le nom de théâtre, et notamment le théâtre de la cruauté, à l'ensemble des configurations artistiques qu'il met en place, donc aussi bien vraiment les...
Donc, on pourrait tout autant parler de cinéma de la cruauté.
Oui, et ben d'ailleurs on en a parlé du cinéma de la cruauté, c'est-à-dire que certains théoriciens actuels cherchent les traces, hein, une certaine... un certain héritage artaudien dans le cinéma actuel, cette idée d'un cinéma de la cruauté. Est-ce qu'il existe un cinéma de la cruauté aujourd'hui qui travaillerait dans la postérité artaudienne? De la même manière qu'il y a tout un théâtre de la cruauté qui travaille dans la postérité artaudienne. Il y en a encore l'exemple cette semaine avec la nouvelle pièce que monte Gonaël Morin au Théâtre des Amandiers, hein, autour justement du théâtre et son double. Bon, et on sait que le cinéma, ça a été un peu le parent pauvre, finalement, des études critiques consacrées à Artaud. On sait très peu intéressé.
Sauf Deleuze. Hein.
Sauf Deleuze, exactement. Mais quand on regarde par exemple les textes d'André Bazin, hein, le recueil que François Truffaut fait publier dans les années 70 autour de textes d'André Bazin qui s'intitule quand même le cinéma de la cruauté, il n'est pas du tout question d'Artaud. Donc il y a quand même, il est tenu à l'écart des grandes entreprises de théorisation critique, à part Deleuze bien sûr, dans L'Image-Temps qui en fait la figure héroïque, hein, de ce lien entre pensée et cinéma. Mais pour voilà, répondre à votre question, ce qui se joue au cinéma, c'est la mise au jour de l'image, en fait. Hein, et ce que Artaud va dire de l'image de cinéma, il va le reprendre ensuite à propos de l'image de théâtre, avec d'ailleurs cette idée assez étrange qu'il puisse au théâtre y avoir des images. Hein, il parle du théâtre comme faisant jaillir dans l'esprit du spectateur des poussées inflammatoires d'images, et comme nous donnant à voir le fonctionnement même de notre pensée. Donc c'est exactement ce qu'il raconte à propos du cinéma. Et ça d'ailleurs, Benjamin Fondane l'avait dit, mais dès 1933, il avait dit que le théâtre n'était que la continuation du cinéma chez Artaud. Donc, il ne faut pas simplifier les choses. Hein. C'est beaucoup plus vaste, l'entreprise théâtrale d'Artaud, que cela. Mais je pense, oui, vraiment, qu'il y a quelque chose qui se met en place, une certaine cinématographicité, à la fin des années 20 et au début des années 30, dans les textes théoriques d'Artaud, qui va ensuite rendre possible l'aventure du théâtre et son double. Et que, voilà, il faut faire droit à ce qui se dit dans ces textes, qui sont très, très... Enfin, quantitativement très peu nombreux par rapport aux textes consacrés au théâtre, mais je pense fondamentaux.
Pour autant, ce qu'il va reprocher au cinéma, donc en 33, hein, dans deux articles en particulier, ce qu'il reproche au cinéma, c'est précisément ce qu'il espère du cinéma dans les années 20.
Oui, alors il y a un revirement total, c'est-à-dire qu'il y a certains textes qu'on peut presque mettre côte à côte et il va inverser certaines de ses intuitions. Ouais.
Pourquoi est-ce qu'il faut en finir alors avec le cinéma dans ces années-là, pour lui, au-delà de la question du parlant qui...
Bien sûr, qui finalement est relativement anecdotique. Hein. Alors, il faut en finir avec le cinéma, pour une raison principale, je pense, ce qui explique le passage au théâtre, puisqu'en fait, dans les années 20, il n'y a pas d'abord le cinéma puis le théâtre, c'est-à-dire dans les années 20 et au début des années 30, il y a de manière conjointe quelque chose qui s'élabore de manière organique autour d'un noyau théâtre-cinéma, et chacun des médiums, en fait, va inspirer l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui se construit conjointement. Et puis, à partir de 33, ce qui lui apparaît, en fait, c'est que le cinéma est un monde mort, notamment parce que c'est un monde désincarné. C'est la question du corps. C'est sur la question du corps qui va buter, en fait, au cinéma. Et donc, ce qu'il avait célébré au début, à savoir cette capacité de l'image filmique à virtualiser le corps de l'acteur et du coup à en faire une sorte de puissance du double qui allait agir comme par un effet hallucinatoire sur l'esprit du spectateur, ça devient quelque chose qu'il ne peut plus résoudre parce qu'il a besoin que deux corps soient en présence hein, pour penser l'efficacité du dispositif de la cruauté. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a pu être critiqué par certains théoriciens du cinéma, le fait qu'il n'y ait pas de corps au cinéma. Voilà, donc on pourrait aussi jouer Artaud contre Artaud hein, et montrer qu'en réalité, il y a une possibilité d'une action corporelle du cinéma et que c'est pas parce que le corps de l'acteur n'est pas là.
L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animal cul qui le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, lui et moi, si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes, alors, vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des balmusettes, et cet envers sera son véritable endroit.
Artaud toujours, hein, 1947, la conclusion de Pour en finir avec le jugement de Dieu, et puisqu'on va parler, Sandra Moussampès, avec vous, de voix, ici le corps a même la voix, on parlait de virtualité du corps, est-ce qu'au fond, la voix radiophonique viendrait résoudre quelque chose, ici?
Alors en tout cas, Artaud veut le croire. Ce qui peut se jouer dans l'enregistrement de l'émission de novembre 1947, hein, Pour en finir avec le jugement de Dieu, c'est l'inscription du corps dans la voix. D'où hein, cette émission absolument extraordinaire, hein, avec les voix de Maria Cazares, de Roger Blin, de Paul Thévenin et d'Antonin Artaud, donc faite d'un tissage de borborygme, bon, on en reparlera sûrement. Mais donc cette émission est interdite, on le sait, mais elle donnera quand même lieu à une projection privée en février 48. Et le lendemain de cette projection, Artaud a une conclusion absolument définitive. Il montre la même déception face à cette émission radiophonique que la déception qu'il avait ressentie face au cinéma, parce que pour lui, la machine vient s'interposer. Et à partir du moment où il y a la machine, il n'y a plus de communication directe entre les corps. Alors ça, on en reparlera peut-être avec Sandra,
hein, oui,
ces questions
alors,
de machine.
Oui, alors oui, cette machine qui est au contraire, hein, qui oui, n'empêche déjà, pas la communication
la
entre les corps.
La machine est un corps, et effectivement, de la machine naît un autre corps. Hein, donc c'est bien la matérialisation entre donc, l'au-delà et l'humain. Donc la voix est un peu... cette espèce de fil conducteur entre cet au-delà et le sensible, voilà, le monde. Donc effectivement, les machines sont très importantes puisqu'elles deviennent des musées et elles peuvent prétendre à héberger donc, les mémoires vocales archivées de nombreuses personnes vivantes ou défuntes.
Finalement, quand on l'écoute, et j'entendais Lorraine Duménil aussi qui parlait de ces tissages de voix, finalement, quand on y pense, alors même si pour vous, ça, la voix d'Artaud, et en particulier pour en finir avec le jugement de Dieu, aura fait fonction de berceuse un peu étrange, hein, pour une enfant, mais au fond, peut-être qu'il vous en reste quand même quelque chose, après tout. Ce goût de la voix, cet intérêt pour la question de l'enregistrement et des machines, et puis l'idée du tissage, du tuilage des voix. Au fond, tout ça, ce sont des choses que vous travaillez aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Donc, j'utilise effectivement différentes textures de ma voix parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais effectivement, le côté chamanique des incantations d'Artaud, c'est quelque chose que je pratique aussi. Donc, il peut y avoir différentes voix, des voix lyriques, des voix effectivement plus éthérées. Et ces voix bruitées qui sont entre le chamanisme et le cri d'un autre langage, hein, qui est hors mots.
Mais Artaud fait la même chose.
Oui.
Je ne sais pas
ce que j'allais dire. Pas à la radio, mais il fait la même chose quand il écrit. On sait que quand il écrivait ses poèmes à la fin de sa vie à Ivry, hein, il chantait, il martelait, il dansait autour de la page, en fait. Il s'agissait d'inscrire corporellement, vraiment.
Mais alors du coup, ça donne envie de lire ses textes, parce qu'effectivement, c'est... une filiation comme ça inconsciente.
Vous finirez peut-être par les lire. Hein. Alors, voix off et voix fantôme, alors on en écoute une, et tendez bien l'oreille, elle vient de 1903. Extrait des Noces de Figaro, de Vieni non tardar, et la voix d'Angelica Pandolfini, cantatrice sicilienne et accessoirement votre arrière-grande-tante, Sandra Moussampès, la sœur du père de votre grand-mère maternelle, si je ne me trompe
exactement.
Pas.
Exactement.
Pour être précise, alors c'est exactement comme nous que vous l'entendez pour la première fois, avec... c'est donc un enregistrement et non pas une voix, ou en tout cas une voix enregistrée, c'est-à-dire avec le souffle, c'est-à-dire avec le grésillement du temps. Cette voix-là, elle fait également couverture de votre livre, Cinéma de l'affect, boucle de voix off pour film fantôme, hein, puisqu'on la voit, c'est une photo d'ailleurs qui est extraite de vos propres archives familiales. Qui est-elle, Angelica Pandolfini ?
Alors avant tout, pour moi, c'était un tableau, un portrait d'elle, qui était dans le salon de ma grand-mère maternelle, d'origine italienne. Et voilà, mais ce n'était pas une voix. Et puis, en 2014, donc, j'ai trouvé sur YouTube des enregistrements d'Angelica, et j'ai pu enfin, moi qui chante et qui travaille sur la voix, entendre cette voix. Et c'était très troublant parce qu'effectivement, il y a une tessiture commune, en fait quelque chose qui aurait sauté deux générations comme ça. C'est d'ailleurs troublant pour moi d'écouter ici, à la radio, la voix d'Angelica, donc qui a été enregistrée en 1903, donc ça fait quand même un petit moment. Bon, moi, je travaille autour du son depuis longtemps et... Angelica, voilà, j'ai voulu la faire revivre. J'ai voulu aussi comprendre le mécanisme donc de ces machines qui contiennent des voix. Alors, ça peut être les gramophones, ça peut être aussi des façons comme a essayé de faire Thomas Edison d'enregistrer la voix des morts. Ça n'a pas été d'ailleurs très concluant, mais enfin voilà, toutes sortes de choses qui sont à la frontière entre l'hyper technique et effectivement le spiritisme. Donc, et là, de faire parler ces boîtes vocales, ces vieux gramophones, ces vieilles cassettes dont on ne pourra plus jamais entendre les voix, à moins d'avoir les machines, etc. Mais là, ce qui était très étonnant, c'est que voilà, sur YouTube, tout d'un coup, je suis face à cette voix qui est là, toute proche. Et je commence donc à penser, à travailler sur ce projet de livre autour du son.
Vous voulez bien nous faire lecture, Sandra Moussampès ?
Opéra poème. Mon arrière-grande-tante, Angelica Pandolfini, fut une cantatrice célèbre au début du siècle. Quand un jour je découvris sur YouTube sa voix enregistrée en 1903, son timbre ressemblait au mien, c'était troublant. Il avait des commentaires d'admirateurs, des hommes surtout, qui connaissaient Angelica mieux que moi, mieux que quiconque. Ils avaient chez eux des gramophones précieux. Ils écoutaient les enregistrements de la diva dont le buste se trouvait à la Scala de Milan. Son portrait photographié siégeait dans le salon à Paris chez ma grand-mère italienne d'origine, qui arrêta le piano quand elle épousa un militaire. Mon grand-père devint ensuite général. Angelica était la sœur de Francesco Junior, qui était lui aussi chanteur et dont le père était le baryton célèbre, Francesco Pandolfini. Un jour, ma grand-mère partit toute seule pour l'inauguration des bustes à la Scala. Elle était invitée en tant que représentante de la famille Pandolfini. Elle avait amené son manteau de fourrure et une valise remplie de tailleurs très chics qu'elle cousait elle-même, de chaussures à talons aiguilles et des boucles d'oreilles, une paire pour chaque jour passé en Italie. Ce poème ne dit rien de la tessiture vocale d'Angelica. On savait qu'elle était contralto, même si personne ne l'avait entendue. YouTube n'existait pas et les gramophones étaient rares. J'ai essayé plus tard de retrouver sa voix dans la mienne. Ce ne fut pas si compliqué. J'ai placé ma voix dans un écrin de pensées vertigineuses, tout un siècle à défiler. J'ai écrit un texte en italien, j'ai composé une mélodie, puis rajouté des grésillements de gramophone. Et les gens n'y ont vu que du feu.
Merci beaucoup, Sandra Moussampès. Vous reconnaissez en tout cas en elle une voix jumelle, peut-être. Hein. Vous y reconnaissez un timbre, une tessiture semblable. Comment est-ce que vous décririez cette voix et du même coup, la vôtre ?
Alors, effectivement, une voix intérieure, peut-être liée aussi au personnage de cette femme, puisqu'elle était aussi assez atypique à son époque. C'était une des premières cantatrices, donc à être également une comédienne, à mettre le jeu d'acteur en avant. Elle a d'ailleurs inspiré pas mal aussi la Callas. Elle était mince à une époque où il se devait, pour être une chanteuse d'opéra, d'avoir un coffre et donc automatiquement d'avoir une corpulence. Elle a eu une longue relation avec donc Toscanini. Elle n'a pas eu d'enfant, c'était une femme finalement quand même assez, je dirais, en avance sur son temps. Voilà. Par rapport à moi, donc, on ne va pas faire vraiment de comparaison puisque au niveau biographique c'est un peu différent. Mais effectivement, cette voix contient plus qu'une simple technicité et c'est peut-être ce parallèle qui m'a ému aussi. Donc outre le fait que nous sommes de la même lignée familiale, donc quelque chose qui s'apparentait à un fantôme familier et à laquelle je pouvais éventuellement m'adresser en écrivant mon livre de manière vraiment directe, en fait je la ressentais de manière vibratoire, en fait.
Qu'est-ce qu'il vous reste de ce rapport voix et écriture, Sandra Moussampès ? Alors, vous racontez aussi que votre père vous voyait cantatrice dans vos jeunes années, vous serez donc poétesse, avec un bref détour par la scène côté chant et côté théâtre. Hein, vous avez chanté, malgré tout. Vous dites aussi dans ce texte « J'ai commencé à chanter quand j'ai senti qu'il fallait se taire ». C'est ce que vous écrivez dans le cinéma de l'affect et vous ajoutez « Je suis devenue chanteuse de façon clandestine ». Qu'est-ce qui se joue dans cette interdépendance entre voix et écriture. Et quand je dis voix, je pense aussi à chant clandestin.
Oui, alors effectivement, quand j'étais enfant, mon père me disait souvent, sous le ton peut-être de la boutade, qu'il souhaitait que je sois la chanteuse du Château des Carpates, en fait, le livre de Jules Verne. Bon, moi, évidemment, je voulais absolument pas faire ça, hein, on est toujours dans une opposition. C'est réapparu, évidemment, après. Alors, il se trouve que dans des lignées comme ça, où deux générations ne vont pas pratiquer la musique, ce qui était le cas dans ma famille, chanter, c'était aussi, à un moment donné, peut-être se défaire de cette espèce de mythologie d'Angelica. Il n'y a pas qu'Angelica, il y a aussi mon arrière-grand-père, Franco Pandolfini aussi, qui était un baryton célèbre, et son propre père, Francesco Pandolfini. Donc, effectivement, dans cette lignée, on va dire, un peu bourgeoise qui est arrivée après, je pense qu'il fallait garder tout ça de manière presque comme dans un musée, de manière... pas trop organique, et donc je sais que ma grand-mère aussi a fait du piano, elle a arrêté, voilà. Donc moi j'ai repris, mon fils d'ailleurs fait du piano maintenant, enfin voilà, des choses comme ça se jouent. Effectivement, par mon histoire personnelle, à un moment donné j'ai senti qu'il fallait se taire, donc j'ai chanté de manière clandestine, puisqu'il s'agissait surtout de groupes underground, c'était à Londres, donc que ce soit pour des albums de groupe indie ou d'électro, donc rien à voir en apparence avec effectivement le chant d'opéra, même si j'utilisais toujours une texture quand même de voix assez éthérée, voire même parfois un petit peu lyrique, mais plutôt éthérée, ou comme dans les chants grégoriens. Donc effectivement, ce qui se joue, c'est qu'on a longtemps, je pense, séparé aussi la pratique du chant et la pratique poétique. Mais c'est pas toujours évident, en fait, quand on est sur ces deux domaines. C'est-à-dire, d'un côté, on est vraiment... Moi, je suis poète avant tout, hein, bien sûr. Le chant est quelque chose qui est venu après. De manière clandestine, je m'y suis autorisée à un moment donné. Mais
là, vous parlez du chant, mais pour ce qui est de la voix, je pense bien avant, parce qu'effectivement, la performance et les lectures performées, les enregistrements de voix que vous ajoutez sur scène lorsque vous faites des lectures, au fond, c'est assez récent, enfin pas tout à fait récent, mais c'est il y a quelques années,
oui,
on n'avait pas commencé par ça.
Ah non, pas du tout.
Mais par ailleurs, je pense à un projet que vous aviez fait en 96 à la Villa Médicis, vous aviez déjà travaillé sur la voix des saintes, donc la voix était déjà là, donc il y avait déjà dans le mouvement de l'écriture à proprement parler, l'idée de la voix qui était là, en attente, et qui ferait... Ça ferait quoi? Ça ferait de l'écriture, au fond, une sorte de capteur, de réceptacle de voix?
Oui, complètement. Oui, oui. Parce que la poésie est avant tout... Enfin, c'est oralité, c'est une énigme pensée, enfin la pensée énigme. C'est un petit peu à ça que j'associe la poésie. Et donc, elle fait voix, elle s'écrit directement dans la pensée énigme, en tant que voix, bien avant de faire voix, de manière plus directe. Donc, dans ce projet, quand j'étais pensionnaire à la Villa Médicis, en 96, effectivement, le projet était associé aux voix mystiques des saintes, que je n'ai sans doute pas entendu, mais que j'entendais quelque part et qui nous faisait sens. Alors ça peut s'associer effectivement à la liturgie ou au chant religieux, mais ce n'était pas que ça, c'était vraiment cette voix qui est à la fois son, pensée, film, et qui pour moi est bien plus réel que le réel ne l'est. Donc, ça fait très longtemps, effectivement, que pour moi, la voix est au centre. J'ai aussi fait un petit peu de théâtre à une époque. Et j'ai l'impression que par un timbre de voix, une texture, une tessiture, on exprime beaucoup plus de choses, souvent, que même par le contenu de ce qui est dit. D'ailleurs, souvent au téléphone, on perçoit ce qui se passe chez quelqu'un davantage que si on l'a en face de nous, où il va pouvoir utiliser peut-être des gestuels ou des regards qui vont un petit peu nous faire diversion, alors qu'une voix, elle ne peut pas tromper.
Et la voix, qui plus est la voix lorsqu'elle est enregistrée, Sandra Moussampès, et vous y revenez beaucoup hein, sur la voix enregistrée dans le cinéma de l'affect, hein, sur les magnétophones, les gramophones, les phonographes, les dictaphones, les cassettes de répondeurs, etc. Cette voix enregistrée a forcément à faire avec, avec les fantômes, hein, et du même coup, l'écriture aurait un lien presque... organique spectral. Chez vous, oui, avec la question du spectre et du fantôme.
Oui, complètement. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours interrogé. Le lien au spiritisme, à l'invisible, à ce qui n'est pas donné à entendre, ce qui n'est pas donné à voir, ce qui n'est pas donné à comprendre aussi, c'est-à-dire ce qui est vraiment ce qui nous échappe, ce qui est ailleurs. Donc il y a le côté ludique, effectivement, que j'avais abordé aussi avec les Sœurs Fox dans Colloque des télépathes ou dans Sunny Girls au travers aussi de films.
Vous peut-être rappeler qui sont les Sœurs Fox.
Oui, alors les Sœurs Fox sont trois sœurs, donc à l'ère victorienne aux États-Unis, qui donc avaient inventé en gros la communication avec les esprits, donc en faisant tourner les tables. C'est elles qui ont participé de ce mouvement, qui donc, dans un premier temps, ont eu un énorme succès. On allait voir de tout le pays pour demander effectivement ce qui allait se passer, comment communiquer avec les morts, etc. Donc elles expliquaient qu'elles avaient communiqué avec un mort qui était donc dans la maison. Et puis un jour, on a effectivement vu la supercherie. Alors il y a eu des experts, des gens comme ça, qui sont venus et elles ont été déchues. Alors elles se sont mariées. Et puis, c'est là où c'est intéressant, ça qui m'intéresse, c'est que très longtemps après, on a découvert qu'effectivement, il y avait bien eu un mort dans la maison. Donc c'est tout ce lien entre le vrai, le faux, qu'est-ce qu'on doit prouver ou pas, finalement, qui est très intéressant parce que, en fait, il y avait réellement donc ce mort, donc elles avaient bien communiqué avec des esprits. Peut-être même étaient-elles allées au-delà de ce qu'elles percevaient. Et finalement, on s'aperçoit que la frontière entre le vrai et le faux est pas aussi claire parfois que ce qu'on veut bien nous dire dans un monde très empirique. Voilà.
Vous voulez bien nous faire à nouveau lecture, Sandra Moussampès ?
D'accord.
Merci.
J'ai trouvé dans un vide-grenier en 2018 un de ces magnétophones des années 80 vendu 12 euros avec son étui en cuir et son microphone associé. Il restait la cassette d'époque. Cet objet contenait des messages des années 80. Ces voix que je ne pouvais plus entendre gisaient là, de façon imprécise, dans un espace-temps argenté sur une place de village en Normandie. Il serait possible de trier les bandes entremêlées, parfois collées l'une à l'autre, implosant à leur façon avec cette mousse noirâtre chimique qui s'échappait. Y avait-il eu des supplications d'une femme abandonnée, des murmures de réconciliation, des conversations érotiques, des colères froides de femmes et d'hommes qui ne se comprendront jamais et font fausse route? La machine à enregistrer les messages ne répondait jamais à mes questions. Elle pouvait donner la sensation d'être un psychanalyste pointilleux dont les séances ne durent pas plus de 5 minutes avec en fin de séance le fameux « on va s'arrêter là, hein ?» quand le psychanalyste se lève, ouvre la porte, prend les billets et que la patiente se retrouve déjà à la rue. À défaut de congeler sa propre voix, elle reste intacte dans la boîte vocale des autres. On se dit après qu'on aurait dû dire autrement. La même chose, cette chose est compressée dans l'espace et elle reste là, où on ne veut plus l'entendre. Alors, je vais vous en lire un autre. Quelle correspondance cherchons-nous en regardant un film, en lisant un poème ? L'attente ou l'éloquence à l'aide d'une métaphore répétitive ? L'enjambement, la césure, les séquences entre le son et le sens, la poésie de l'affect, la juxtaposition du poème ? Temps et lumière, fondu au noir, point de vue, fragment, métrique, soustraction. Quelle différence entre exorcisme et plan serré? Une façon d'écrire dans le noir, le récit visuel. Au départ, c'est une composition du vivant, à peine redimensionnée. Nos pensées notées dans la maison sculptée, ces fragments filmés en boucle, superposent les mêmes conclusions. En créant un nouveau découpage, je force les images à nous élever.
Merci. Sandra Moussampès, Lorraine Duménil, merci à toutes les deux. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Non, sans quelques notes de Gainsbourg. Alors, excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Ouais, j'ai des doutes, j'ai les affreux. Les affreux de la création. Comprenne qui veut, pas si con. Suis là pour les galets, faut se lever tôt. Je veux parler d'Antonin Artaud. Ouais, le génie ça démarre tôt, il y a des fois ça rend marteau. J'ai des doutes, j'ai les affreux. Les affreux de la création. Comprenne qui veut, pas si con.
Alors, Sandra, moi j'aurais une petite question. Je voudrais vous lire une phrase d'Antonin Artaud, qui est extraite d'une lettre à Paul Thévenin du 24 février 1948, donc le lendemain de cette fameuse diffusion en cercle privé au cinéma Le Washington de l'émission interdite pour en finir avec le jugement de Dieu. Voilà ce qu'il écrit à Paul Thévenin à propos donc de la radio. Là où est la machine, c'est toujours le gouffre et le néant. C'est pourquoi je ne toucherai plus jamais à la radio. Donc cette condamnation de la machine, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous ?
Ben, je peux le comprendre dans ce qu'il y a d'organique chez Artaud et qui est tellement lié au corps et au non-corps, en fait, justement, quand il parle d'un corps sans organes, hein, c'est ça. Donc, alors moi, je vois les choses différemment. Ça m'intéresse parce que je fais aussi, donc, comme j'explique, un travail autour du son. Donc le côté rituel de la machine m'intéresse, mais effectivement, c'est quelque chose dans lequel il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de une espèce de technicité, parce que ça peut piéger aussi.
Mais chez lui, il y a même cette idée que ça virtualise, en fait, que ça embaume, que ça congèle.
C'est ça, mais d'ailleurs, j'ai
et vous, vous n'avez pas ce sentiment, en fait. La machine, pour vous, elle...
C'est-à-dire justement mon travail, enfin, j'écris sur ces voix congelées, c'est ça aussi qui m'anime, et sur ces voix embaumées, puisque j'ai une série qui s'appelle Petites extorsions de voix embaumées, donc justement qui évoque la voix congelée. Donc moi, ça qui m'intéresse, c'est ces questionnements autour de la voix en tant qu'objet piégé dans des machines. Enfin, c'est en même temps vrai, la technique peut réduire, et en même temps, elle est là pour... nous enregistrer comme ici aujourd'hui, donc c'est
et peut-être
c'est
que c'est du coup la charge de l'auditeur, de celui qui écoute, de faire revivre cette voix, non ? C'est-à-dire que Artaud, il avait très peur de ça pour ses textes poétiques et il demandait au lecteur, il écrivait en marge de ses cahiers, il faut les dire mes textes en fait, il faut les faire vivre dans votre propre corps parce que sinon ils sont morts, ils sont congelés.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la technique, Manuel Couturier, à la préparation, Thierry Beauchamp et à la réalisation, Laurence Malonda. Toutes les actualités des invités du jour sont sur le site de l'émission à réécouter ou podcaster sur franceculture.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Nicolas Martin.